Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1949, Le Deuxième Sexe est un essai philosophique et historique majeur de Simone de Beauvoir, inscrit dans l'horizon de l'existentialisme. Le premier tome, Les faits et les mythes, ne décrit pas encore systématiquement les étapes de la vie des femmes, qui seront au centre du second volume. Il examine plutôt les cadres intellectuels, sociaux et symboliques par lesquels la féminité a été définie. Beauvoir confronte les explications biologiques, psychanalytiques et matérialistes de la différence des sexes, puis étudie les mythes produits par des traditions littéraires, religieuses et culturelles largement dominées par les hommes. Son objectif n'est pas de nier les différences corporelles, mais de montrer qu'elles ne suffisent pas à expliquer une hiérarchie. L'ouvrage analyse la manière dont les femmes ont été constituées comme un groupe subordonné et représentées comme altérité. Cette enquête fournit les bases théoriques de sa critique de la condition féminine et de sa défense d'une liberté concrète. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la femme définie comme autre dans un monde organisé par les hommes, le concept directeur du premier tome est celui de l'autre. Beauvoir observe que, dans de nombreuses sociétés, l'homme tend à se présenter comme le sujet universel, la mesure de l'humain et le détenteur de l'initiative. La femme est alors définie relativement à lui, comme épouse, mère, amante ou objet de désir, plutôt que comme une conscience ayant ses propres fins. Cette asymétrie ne désigne pas une simple différence entre deux groupes. Elle explique une relation de pouvoir dans laquelle un sexe peut apparaître comme neutre et général, tandis que l'autre est renvoyé à sa particularité corporelle ou sexuelle. Beauvoir analyse ainsi pourquoi le mot « homme » a pu servir à nommer l'humanité entière, alors que « femme » est souvent traitée comme une catégorie secondaire. Sa thèse éclaire le paradoxe d'une domination qui ne repose pas uniquement sur une exclusion extérieure, les femmes vivent au sein des familles, des institutions et des relations affectives avec ceux qui disposent traditionnellement de l'autorité. L'altérité féminine est donc entretenue autant par des représentations culturelles que par des arrangements matériels. Cette idée permet de comprendre que l'inégalité ne relève pas d'une nature immuable, mais d'une organisation historique des positions, des valeurs et des possibilités d'agir. Deuxièmement, les limites des explications biologiques de la hiérarchie sexuelle, Beauvoir commence par considérer la biologie. Car les différences anatomiques et reproductives ont fréquemment servi à justifier une distribution inégale des rôles. Elle ne conteste pas la réalité du corps sexué, ni les contraintes que peuvent représenter la menstruation, la grossesse ou l'accouchement. Son argument est plus précis, un fait biologique ne contient pas à lui seul une règle sociale ou une destinée morale. Pour passer de la différence corporelle à l'idée d'infériorité, il faut déjà adopter une interprétation des institutions et une échelle de valeurs. La maternité, par exemple, peut être valorisée, imposée, protégée ou pénalisée selon les conditions économiques, juridiques et culturelles. Elle ne détermine donc pas mécaniquement une vocation domestique. Cette méthode évite deux réductions contraires, traiter le corps comme sans importance ou faire du corps l'explication totale de la condition féminine. Chez Beauvoir, l'existence humaine ne se limite jamais à l'organisme, car chacun donne sens à sa situation par ses projets et ses rapports avec autrui. La critique demeure décisive pour les débats sur le genre, reconnaître une différence sexuelle ne commande pas d'assigner des capacités, un caractère ou une place sociale. L'enjeu est de distinguer ce qui relève des données du corps et ce qui résulte d'une construction historique de la féminité. Troisièmement, psychanalyse et matérialisme historique soumis à une critique existentielle. Le premier tome évalue également deux grands systèmes d'explication à leur influant la psychanalyse et le matérialisme historique. Beauvoir leur reconnaît un apport, puisqu'il rappelle que l'individu ne se comprend pas isolément. La vie psychique, les rapports familiaux, le travail, la propriété et l'histoire collective façonnent les situations humaines. Mais elle refuse qu'une théorie unique épuise le sens de l'existence féminine. Elle reproche notamment à certaines lectures psychanalytiques de prendre l'expérience masculine comme norme et de convertir des structures sociales en schémas psychiques, apparemment universels. Elle juge aussi insuffisante une explication qui ferait de l'économie la cause exclusive de la subordination des femmes. Les transformations du travail et du droit sont essentielles, mais elles ne dissipent pas automatiquement les images, les habitudes et les attentes qui organisent les rapports entre les sexes. Son cadre existentialiste insiste sur la situation, une personne est à la fois prise dans des conditions qu'elle n'a pas choisies et capable de les interpréter, de les contester ou de les transformer. Cette position rend l'analyse plus complexe qu'un déterminisme. Elle permet d'étudier conjointement les contraintes matérielles, les structures symboliques et la liberté, sans réduire les femmes à des effets passifs de leur corps, de leur enfance ou de leur classe sociale. Quatrièmement, les mythes de l'éternel féminin comme instrument de simplification. Dans la partie consacrée aux mythes, Beauvoir montre que la culture masculine a souvent chargé la femme de significations contradictoires. Elle peut être célébrée comme mère, muse, source de vie ou figure de pureté, et simultanément redoutée comme séductrice, menace, chair ou désordre. Ces images opposées ne se compensent pas. Elles ont en commun de ne pas considérer les femmes comme des individus variés, situés et libres. Le mythe transforme une pluralité de vie en une essence supposée éternelle, appelée la femme. Beauvoir examine ainsi des représentations héritées de la religion, de la littérature et de la pensée occidentale pour mettre au jour leurs fonctions, elles permettent à des hommes de projeter leurs désirs, leurs craintes et leurs aspirations sur un être présenté comme mystérieux. Une femme réelle devient alors moins visible que les rôles symboliques qu'on lui impose. L'analyse ne se limite pas à dénoncer des stéréotypes isolés. Elle explique leur efficacité sociale. Lorsqu'une image paraît naturelle, poétique ou sacrée, elle rend plus difficile la contestation des limites concrètes imposées aux femmes. En déconstruisant l'éternel féminin, Beauvoir refuse l'idée qu'une identité collective puisse être déduite de figures littéraires ou religieuses. Elle réoriente l'attention vers les conditions effectives dans lesquelles des personnes vivent, travaillent, aiment et exercent ou non leur liberté. En dernier lieu, devenir femme, une thèse sur la formation sociale de la féminité. La formule selon laquelle on ne naît pas femme, on le devient condense l'orientation de l'ensemble de l'ouvrage, même si elle apparaît dans le second tome. Elle ne signifie pas que le sexe biologique serait imaginaire, ni que chaque individu pourrait se soustraire sans difficulté à son histoire. Elle affirme que ce que la société appelle féminité est formé par l'éducation, les normes, les interdits, les récompenses et les modèles culturels. Dès l'enfance, les attentes relatives au comportement, au corps, à la vocation familiale et à l'ambition contribuent à distribuer différemment les possibilités. Le premier tome prépare cette thèse en montrant comment les discours savants et les mythes rendent ces attentes plausibles. Si la passivité féminine est présentée comme naturelle, les obstacles à l'autonomie peuvent sembler légitimes plutôt que construits. L'idée de devenir introduit donc une dimension historique et politique, ce qui a été fabriqué socialement peut être transformé. Toutefois, Beauvoir ne propose pas une vision abstraite de l'émancipation. La liberté exige des conditions concrètes, notamment l'accès à l'instruction, à l'activité, à l'indépendance économique et à une reconnaissance égale. La thèse conserve une portée analytique importante, car elle invite à examiner comment les normes de genre se reproduisent dans les pratiques ordinaires, plutôt qu'à attribuer trop vite les rôles sociaux à une essence féminine ou masculine. En conclusion, les faits et les mythes s'adressent aux lecteurs de philosophie, d'histoire des idées, d'études de genre et de littérature. Mais ils restent accessibles à toute personne qui souhaite interroger l'origine sociale des inégalités entre les sexes. Sa lecture demande de la patience. Beauvoir argumente longuement, dialogue avec des théories aujourd'hui parfois datées et mobilise un vaste ensemble de références culturelles. Cet effort est cependant intellectuellement fécond. Il apprend à distinguer l'effet corporel des significations sociales qu'on leur attribue, à identifier les mécanismes par lesquels une représentation flatteuse peut aussi enfermer et à penser ensemble institutions, langage, économie et expérience individuelle. Le livre se démarque des essais simplement militants ou descriptif par son ambition philosophique. Il ne se contente pas de réclamer l'égalité juridique ni d'inventorier des injustices, il cherche à comprendre comment une hiérarchie peut se présenter comme naturelle, durable et même désirable. Comparé à des ouvrages plus récents sur le genre, il porte les limites de son époque et appelle une lecture critique, notamment sur l'universalité de certaines catégories. Mais sa force demeure dans la construction d'un problème. Pourquoi une moitié de l'humanité a-t-elle été si souvent pensée depuis le point de vue de l'autre moitié? Le premier tome est particulièrement utile pour saisir les fondations conceptuelles de cette question avant d'aborder, dans Elle, expérience vécue, les situations concrètes analysées par Beauvoir. Si vous souhaitez soutenir Simone de Beauvoir, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.